France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Trump, le retour, c'est donc aujourd'hui que le milliardaire républicain deviendra à 78 ans le 47e président des États-Unis. En même temps que le chef d'État américain le plus âgé jamais investi, nous serons en direct de Washington dès le début de ce journal. On s'intéressera par ailleurs à l'entourage controversé dans l'ombre du prochain locataire de la Maison-Blanche. Et puis avec notre invité aujourd'hui, on posera la question du risque d'émergence d'une nouvelle ère de la post-vérité. À suivre également le deuxième jour de trêve à Gaza. On fera le point après un premier échange d'otages contre des prisonniers. L'actualité en France et notamment la candidature ce matin de Yannick Jadot à la mairie de Paris. Enfin, les enseignants à Mayotte font leur rentrée aujourd'hui, un peu plus d'un mois après le passage dévastateur du cyclone dans l'archipel. 8 ans après sa première investiture, Donald Trump entend bien donc savourer pleinement sa seconde et a priori dernière prestation de serment, laquelle se tiendra à midi précise heure locale. Et tant pis si les festivités seront en partie gâchées par le froid polaire qui s'est abattu sur la capitale, au point d'ailleurs que la cérémonie ferrarissime ne se tiendra pas sur les marches du Capitole, mais à l'intérieur du siège du Congrès, autrement dit à l'endroit même où ses partisans avaient fomenté un coup d'État 4 ans. Plutôt, c'est dans la rotonde que Donald Trump, une main posée sur une Bible héritée de sa mère, jurera de protéger la Constitution avant de recevoir la bénédiction d'un pasteur évangélique et ex-dealer. Mais ce ne sera pas là la seule originalité de cette cérémonie, puisque, autre entorse au protocole habituel, l'ex-animateur télé a décidé de convier un grand nombre de chefs d'État et de premiers ministres étrangers, dont la liste se lit un peu comme le woo-woo de l'extrême droite mondiale autoritariste populaire. Populiste et libertarienne, sans oublier bien sûr les hommes les plus riches au monde, tous américains et issus de la tech, Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg. Nicolas Théard, bonjour.
Bonjour.
Envoyé spécial à Washington, le jour s'est à peine levé donc chez vous sur la capitale, dans une ambiance déjà très particulière, hein, presque menaçante, entre les drones qui parcourent le ciel, les snipers postés sur les toits et près d'une cinquantaine de kilomètres de barrières érigées.
Et le blizzard n'a rien fait pour réchauffer cette atmosphère. C'est vrai que c'est un record, près de 50 kilomètres de barrière. C'est lié au contexte très particulier. Vous le disiez, de nombreux chefs d'État étrangers présents. Les plus grandes fortunes de la planète, il ne faut pas oublier non plus cette tentative d'assassinat qui avait visé Donald Trump l'été dernier pendant sa campagne. Et puis l'assaut du Capitole donné à l'endroit même où Donald Trump prêtera serment tout à l'heure. C'était il y a 4 ans. Il faut tout de même noter que l'atmosphère est moins lourde qu'il y a 4 ans. Justement, à l'époque, on était 2 semaines après l'assaut du Capitole, quand Joe Biden avait prêté serment. On était en plein Covid aussi, et les rues étaient totalement vides dans le cœur de Washington, où la chaleur des Trumpistes est venue se mêler tout de même hier aux flocons de neige.
Et c'est vrai que de manière assez surprenante au fond, Nicolas, autant on se souvient combien la première élection de Trump avait causé une véritable commotion, autant son retour semble s'organiser cette fois-ci dans une forme de résignation. Il n'y a par exemple pas de manifestation de masse attendue aujourd'hui.
Quelques milliers de personnes seulement ont défilé samedi dernier ici à Washington. Elles étaient des centaines de milliers il y a 8 ans. Maintenant, une forme de résignation qui est liée aussi à l'installation de Trump dans le paysage politique, à la légitimité d'une victoire incontestable en novembre dernier. On retrouve d'ailleurs la même chose au niveau international. Donald Trump a eu cette formule il y a peu. Je n'ai que des amis depuis que je suis élu. Personne ne me critique. Le modèle populiste conservateur du milliardaire a essaimé dans son sillage et c'est aujourd'hui la plupart de ses partisans, de ses supporters qui vont envahir Washington où ils ont assez peu l'habitude d'être aussi nombreux représentés.
Merci Nicolas Théard en direct de Washington. Alors Donald Trump a d'ores et déjà promis d'agir avec, je cite, une force sans précédent pour mettre fin au déclin de l'Amérique. Pour cela, il devrait en passer par un déferlement de décrets, près d'une centaine au total, que ce soit pour endiguer ce qu'il qualifie d'invasion de migrants sans papier, mais aussi redresser la presse ou bien encore s'attaquer à la folie transgenre, toujours selon ses propres mots. Donald Donald Trump veut donc faire vite. Il a d'ailleurs sélectionné très tôt dans le processus tous ses candidats aux différents postes, à la fois de ministre et d'ambassadeur. Et même si ces derniers doivent encore être validés par le Sénat, majorité républicaine, les noms choisis par Donald Trump ont tous ou presque un point commun, celui d'être controversé. Valérie Cantier, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, c'est le cas, par exemple, du futur ambassadeur en France, Charles Kushner, le père de Jared Kushner et Marie d'Ivanka, la fille de Donald Trump, un personnage, Valérie, pour le moins sulfureux.
Oui, alors ce qu'on peut dire, tout simplement, c'est que Charles Kushner est un repris de justice, condamné en 2005. Il a passé 2 ans derrière les barreaux pour fraude fiscale, subornation de témoins et contribution illégale à des campagnes électorales. Au total, il a plaidé coupable de 18 chefs d'accusation. Trump l'a tout de même gracié en 2020. Alors, ce qui a le plus fait de bruit, c'est le stratagème sordide qu'il avait utilisé pour piéger un membre de sa famille, le mari de sa sœur en l'occurrence, qui allait témoigner contre lui dans les affaires de fraude fiscale. Chris Christie, ancien trumpiste, était procureur général du New Jersey à l'époque et c'est lui qui a poursuivi Charles Kushner. Il affirme avoir été banni du clan Trump à cause justement de cette affaire. On écoute Chris Christie en 2019 sur CBS.
Si un type engage une prostituée pour séduire son beau-frère et envoie la vidéo à sa sœur pour l'intimider et l'empêcher de témoigner devant un grand jury, est-ce que j'ai encore besoin d'en rajouter ?
Voilà, c'est ça Charles Kushner, Charles Kushner qui donc pourrait devenir ambassadeur des États-Unis en France si le Sénat valide sa nomination. Il n'a aucune expérience diplomatique, décrit par ses nombreux détracteurs comme égocentrique, mafieux et malhonnête. Ce multimillionnaire a un profil à la Trump, il a repris la prospère entreprise immobilière familiale. 70 ans, il est l'un des plus gros contributeurs aujourd'hui de la campagne Trump 2024 et sa nomination est vue comme un pur envoi d'ascenseur.
Merci Valérie Cantier. Alors je l'évoquais tout à l'heure, si les dirigeants étrangers ne sont de coutume pas conviés aux investitures des présidents américains, Donald Trump a décidé de rompre avec la tradition. Plusieurs personnalités politiques d'extrême droite ont reçu un carton d'invitation. Faut-il y voir déjà les prémices d'une nouvelle alliance populiste internationale dont la force de frappe sera massivement décuplée par la puissance du réseau social X d'Elon Musk, allié au président américain? Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Nathalie Sonnac, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Panthéon-Assas, spécialiste en économie des médias et du numérique, ex-membre du CSA et autrice d'un ouvrage intitulé « Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique » paru aux éditions Odile Jacob. Bonjour madame.
Bonjour.
On sait à quel point les réseaux sociaux participent aujourd'hui non seulement à la vie politique, mais aussi électorale. Il suffit de voir comment la collecte, la vente de données permettent de transformer des signes a priori insignifiants en bulletins de vote. Il se trouve qu'à l'occasion donc de cette journée d'investiture, des médias, mais aussi des politiques envisagent de déserter le réseau X. Est-ce que quitter un tel espace, quand bien même le débat public, on le sait, n'y existerait pas, ne représente pas malgré tout un danger démocratique? En clair, est-ce que déserter X, ça n'est pas laisser le champ libre à l'extrême droite?
C'est tout le danger de toute façon de la non-réglementation, de la non-régulation de ces réseaux et de leur concurrence directe avec des médias qui, eux, sont très réglementés. Ce qui se passe aujourd'hui sur X, c'est malheureusement ce qui se passe sur TikTok également. Donc ce sont des plateformes qui sont détenues par des propriétaires privés et qui en même temps ont une agora totalement publique. Donc la question se pose de jusqu'où on ne sera pas capable, européen, d'imposer les règles que l'on a votées au sein de l'Europe. En l'occurrence, on a voté le DSA, le Digital Service Act, qui impose à ces grandes plateformes numériques d'entrer dans nos propres règles. Et le fait qu'avec X, on n'y parvienne pas, ce n'est pas normal. Donc on comprend parfaitement le fait de devoir dégager, finalement, de sortir de cette plateforme totalement nauséabonde, qui laisse la voie à la fois à des influenceurs communautaires d'extrême droite, au populisme, mais se pose de façon plus générale la question de l'anonymat, la question de la non-régulation de ces plateformes. Il faut parvenir à les faire rentrer dans notre espace public qui est réglementé, où la liberté est une liberté possible lorsque celle-ci est encadrée.
Et justement, comment fait-on? Vous évoquiez cette loi à l'échelle européenne. Est-ce qu'il existe peut-être d'autres outils pour contrecarrer donc ce réseau idéologique?
Non, mais appliquons déjà cette loi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est plus qu'une loi, c'est un règlement européen. Hein. Il est rentré en vigueur au mois d'août. Donc, il faut absolument aujourd'hui prendre les mesures nécessaires qui s'imposent à toute personne qui finalement ne rentre pas dans le cadre et qui se met en contrevenance de cette loi. Maintenant, on peut également quitter le réseau. Hein. Il y a Hello Kitty qui est en train de se monter. D'autres plateformes. La grande difficulté, c'est qu'effectivement, on n'a pas su, nous, en Europe, finalement, se construire également un réseau social à l'équivalent d'un TikTok. Hein, soit tous les réseaux sociaux sont soit chinois comme TikTok, je venais de le dire, mais en même temps, soit les réseaux, comme vous évoquez, sont américains.
Donc,
on voit bien que derrière, c'est une question d'espace public et démocratique à créer. Donc, nous, en Europe, nous avons notre système qui doit avoir une information de qualité qui est protégée, qui a un caractère d'intérêt général. Évident, ce n'est pas le système chinois, ce n'est pas le système américain.
Justement, au-delà de la force de la législation, jusqu'à quel point l'éducation aux médias, à l'information, peut rivaliser face à la puissance de diffusion des géants de la tech ?
Elle est centrale. Moi, je pense qu'on a vraiment deux leviers indispensables à actionner en même temps et à les prendre en compte. Donc, moi, j'en appelle vraiment à une action urgente de considérer que le rôle de l'information de qualité, elle est centrale dans notre démocratie. Il y a vraiment des piliers de contre-attaque à avoir. D'une part, la loi et donc son application. Le DSA, il faut l'appliquer. Et évidemment, l'éducation aux médias et à l'information. Hein, je préside le COP du CLEMI, qui est vraiment une instance qui vise à faire un lien fort entre l'école et les médias. Il faut le renforcer. Il faut aller beaucoup plus loin. Le sens critique aujourd'hui est indispensable. C'est vrai à l'école, vous avez raison, et je le souligne également, mais je crois que c'est vrai tout au long de la vie. Donc il y a vraiment une éducation à la citoyenneté et au numérique à améliorer, parce qu'elle est déjà en place. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait, que nous n'avons rien. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été mises en place et qui ont été accentuées suite à l'assassinat horrible de Samuel Paty et puis ensuite du professeur Dominique Bernard. Mais il faut renforcer la formation à l'esprit critique, enseigner le doute méthodique, et donc il faut pouvoir donner, en l'occurrence au CLEMI, qui est vraiment le service de l'éducation, l'éducation nationale qui existe depuis 40 ans, qui s'est beaucoup développé, il faut en urgence lui donner des moyens. On a sorti un papier clé en main, il faut que l'appliquer.
Merci beaucoup Nathalie Sonnac, professeure donc en sciences de l'information et de la communication de l'Université Paris-Panthéon à Sens, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aline Biette pour la préparation.
Et Donald Trump, toujours lui, n'a pas attendu d'être investi pour oublier certaines de ses promesses de campagne.
Oui, c'est le cas s'agissant de la guerre en Ukraine. Celui qu'il y a peu encore prétendait qu'il lui faudrait seulement 24 heures pour régler ce conflit a fini par admettre qu'il lui faudrait probablement plutôt 6 mois pour parvenir à un cessez-le-feu. En revanche, c'est vrai que ce dossier reste une priorité pour le nouveau président américain qui, au-delà de vouloir apparaître comme un faiseur de paix, entend surtout se débarrasser de ce poids trop coûteux pour l'économie américaine. De quoi susciter les pires craintes chez tous ceux qui, depuis bientôt 3 ans, lutte sans relâche contre l'envahisseur russe, étant entendu que sur le terrain, la situation semble plus que jamais difficile au bombardement jusque dans le centre de la capitale. Kiev s'ajoute des combats acharnés, illustration sur le flanc est, où se joue actuellement une bataille pour la ville de Pokrovsk, dont la population achève d'être évacuée. Reportage sur place de nos reporters Claude Guibal et Alexandra Bergel.
Hier, on lui a dit « Demain, on t'évacue ». Et Olena, 83 ans, a pris ses papiers, quelques vêtements, noué un fichu jaune sur sa tête, attrapé sa canne et elle a quitté son village tout près de Kourakové.
Là-bas, c'est affreux. C'est tellement la guerre. Ce qu'il y a dans ma tête, là, vous ne pouvez pas savoir. Le bruit dans mes oreilles, les bourdonnements et mon cœur, oh là là. Mon Dieu.
Vitya, 65 ans, le fils d'Olena, est sonné.
J'ai vécu tellement de choses. J'étais sous les drones, on est resté 3 jours cachés sous terre. On ne pouvait même pas sortir pisser dans la cour. Voilà ce que j'ai vécu.
Olena a laissé une vie entière derrière elle, sa maison, les poules, le petit potager qui lui permettait de vivre avec sa maigre retraite d'ouvrière agricole. Cette nuit, elle la passera au centre de réfugiés de Pavlograd. Demain, ne sait pas où elle dormira ni où elle sera envoyée.
Poutine, il ne va pas s'arrêter. Jamais. Pas avant d'avoir tout écrasé. L'espoir, il ne repose que sur Trump. Il a dit « Je ne donnerai pas un sou à l'Ukraine ». Eh bien, s'il ne donne plus d'argent, la guerre s'arrêtera.
Et tant pis si cela veut dire vivre sous occupation russe, que la guerre s'arrête à tout prix, semble aujourd'hui son seul horizon.
Voilà un reportage à Pokrovsk, signé donc Claude Guibal. Bien loin de pouvoir encore célébrer une paix durable et sans doute plus loin encore de pouvoir oublier ce visage le plus hideux du monde que la guerre entre Israël et le Hamas aura donné à voir pendant 15 mois. Pour la première fois ce matin depuis trop longtemps, Israéliens et Palestiniens ont cependant retrouvé un calme inconnu après que les armes se sont tues. Au lendemain de la libération de 3 otages israéliennes, ce sont 90 prisonniers palestiniens qui à leur tour ont été relâchés, suscitant les mêmes scènes de liesse que la veille, mêlées de larmes de joie. Alors que sait-on exactement de ces 90 détenus ? Élément de réponse avec Valérie Crovin.
Ce sont essentiellement des femmes, 69 exactement, et des adolescents au nombre de 21. La grande majorité avait été arrêtée après le massacre du 7 octobre et purgeait des peines courtes, à l'exception de Nawal Fatiha. Cette jeune femme de 23 ans avait été condamnée à 8 ans de prison pour avoir poignardé un Israélien à Jérusalem, selon le quotidien Haaretz. Les autres étaient en attente de jugement ou en détention administrative. Héritée du mandat britannique, cette procédure permet aux autorités israéliennes d'incarcérer toute personne jugée dangereuse, sans charge et sans limite de temps. C'était le cas d'Abla Abdelrasoul, la doyenne âgée de 68 ans, ainsi que Ralida Jarar, la plus connue des prisonnières relâchées. Cette éminente militante des droits des Palestiniens a passé une grande partie des 10 dernières années derrière les barreaux. Membre de la direction du Front populaire de libération de la Palestine, classée terroriste par les États-Unis et l'Union européenne, elle n'a cessé de faire des allers-retours entre Ramallah et les prisons israéliennes. En 2021, Israël lui avait refusé une permission humanitaire pour assister aux funérailles de sa fille. Sur les 90 prisonniers libérés, 76 ont été transférés en Cisjordanie et 14 à Jérusalem-Est.
Lui veut se dresser contre une droite qu'il juge trumpisée. Lui, c'est le sénateur écologiste et ex-candidat à l'élection présidentielle Yannick Jadot, lequel annonce ce matin vouloir briguer la succession d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris en 2026, avec toutefois un premier défi de taille, Sophie Delpont, rassemblée à gauche, où les candidatures décidément se multiplient pour décrocher les clés de la capitale.
Je souhaite que le prochain maire de Paris soit écologiste. C'est par ces mots que Yannick Jadot a annoncé sa candidature ce matin. Dans le journal Le Parisien, il précise qu'il se propose pour porter le rassemblement face à Rachida Dati. Car s'il veut l'emporter face à la ministre de la Culture du gouvernement Bayrou, actuellement en tête dans les sondages dans la capitale, l'ancien candidat à l'élection présidentielle devra déjà remporter la désignation interne de son parti, prévu au mois de mars. Et il le sait, ce n'est pas une mince affaire. Car à l'heure actuelle, déjà 4 candidats écologistes potentiels sont déjà sur les rangs pour Paris. Les adjoints d'Anne Hidalgo, David Béliard et Anne-Claire Bou, la présidente du groupe écologiste au Conseil de Paris, Fatoumata Koné, et la porte-parole du parti des écologistes, Aminata Niakate. Yannick Jadot déclare les avoir tous rencontrés en amont et il explique qu'il souhaite éviter le scénario d'une compétition entre les écologistes, précisant que ce seront les militants qui trancheront par un vote, selon ses mots dans son interview publiée ce matin. Jusqu'à présent, l'ambitieux sénateur de Paris se contentait de botter en touche lorsqu'on l'interrogeait sur ses projets pour la capitale. En officialisant sa candidature aujourd'hui, il est donc sorti du bois, mais en marchant sur des œufs pour ne pas apparaître comme le loup dans la bergerie écologiste de la prochaine bataille pour la mairie de Paris.
C'est aujourd'hui que les députés entament l'examen de la loi d'urgence pour Mayotte.
Oui, soit le tout premier texte du gouvernement Bayrou à être débattu dans l'hémicycle et au regard de l'impératif d'accélérer la reconstruction de l'archipel dévasté par le cyclone Chido, son adoption fait a priori peu de doute. En attendant, et après avoir été reporté déjà d'une semaine, c'est aujourd'hui la rentrée des classes pour les quelques 8000 professeurs de Lille avant le retour des élèves prévu lundi prochain, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les enseignants du premier comme du second degré de considérer que les conditions ne sont toujours pas réunies pour reprendre les cours. 40 écoles au total, mais aussi 5 collèges et lycées ne sont même pas du tout exploitables, raison pour laquelle les syndicats ont déposé un préavis de grève reconductible. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, avec partout une alternance de nuages et d'éclaircies auxquelles se mêleront toutefois quelques averses sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Quant aux températures, elles seront comprises entre 2 et 12 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.